Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint,
Apolline Verlon.
Bonjour à toutes et à tous. Comment habiter un monde pollué par la main meurtrière de quelques personnes? Comment vivre dans une société gangrénée par l'argent? Comment être une femme aujourd'hui dans une époque où les hommes imposent leur pouvoir? Toutes ces questions cruciales qui concernent la majorité d'entre nous sont aussi au cœur du nouveau roman de notre invité, paru sous le titre « Sans parole ni poignée de main » aux éditions ivoiriennes Nimba. Un livre qui revient sur la catastrophe écologique d'un cargo, le Probo Koala, qui a déversé ses déchets toxiques dans le port d'Abidjan il y a une vingtaine d'années. Une réalité terrible, aux conséquences sanitaires tout aussi terribles pour toute une population et qui permet à l'autrice de souligner tous les autres dysfonctionnements de notre temps. Bonjour Tanella Boni.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, poétesse, romancière, essayiste, universitaire. Vous œuvrez depuis plus de 40 ans par vos livres et par vos cours à éclairer nos esprits, à dessiller nos yeux et libérer la parole. Ici, dans cette cinquième fiction que vous publiez, vous rappelez donc ce séisme environnemental qui a touché la Côte d'Ivoire il n'y a pas si longtemps. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé en août 2006 à Abidjan, Tanella Boni?
Oui, je dirais que c'est à la fois très simple et aux conséquences plus que dramatique. En réalité, un bateau est arrivé avec une cargaison de déchets toxiques. Mais ce qui s'est passé, c'est que ce cargo a fait tout le tour de l'Afrique et finalement, c'est en Côte d'Ivoire qu'il a déchargé ses déchets. Je pense que sur le coup, on n'a pas vraiment compris ce qui s'est passé, hein, parce que c'était d'abord des odeurs, comme je le dis dans le roman, de très fortes odeurs, on ne pouvait plus respirer. Vous savez, la respiration, c'est la vie, je ne suis pas la seule à le dire, hein, mais on le dit très souvent. Il faudrait qu'on puisse respirer pour vivre et même prétendre à bien vivre. Donc, ce cargo est arrivé avec donc, sa cargaison de déchets et on ne sait pourquoi. Surtout pourquoi Abidjan, pourquoi la Côte d'Ivoire? Vous voyez, quand une catastrophe arrive et que vous savez exactement ce qui vous arrive, vous pouvez réagir. Mais les uns et les autres, je veux dire tout le monde dans la ville, était comme tétanisé. Et c'est cette histoire-là que j'ai voulu raconter, évidemment, romancer, et je dirais même très romancer, parce que ce que j'en dis, c'est vraiment dilué hein, par rapport à ce qui s'est passé réellement avec les morts, avec toutes les maladies de peau, les maladies de respiration et les conséquences dans les familles, hein, des conséquences dramatiques.
Vous étiez sur place, Tanella Boni?
Je n'étais pas sur place, mais tous les jours, j'en ai entendu parler. Et surtout, après, je suis allée sur place. Et j'ai fait une enquête de terrain. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu que même quelques années après, il y avait encore des traces. Et j'ai pu justement, m'informer par la presse.
D'ailleurs, il y a des articles à la fin du livre.
Il y a des articles à la fin.
Reproduits qui attestent effectivement de cet événement tragique. Sachant que ça a été sur 12 kilomètres à la ronde, que 17 sites ont été touchés. Oui. Il y a eu combien de victimes, Tanella Boni?
Mais c'est justement sur le nombre de victimes qu'on ne sait pas exactement combien de victimes. Pour la bonne raison que, évidemment, sur le coup, on ne savait même pas ce que les gens avaient. Beaucoup de gens étaient soignés avec de l'aspirine et autres médicaments de ce genre. Il y avait aussi beaucoup, beaucoup de maladies de peau et ça a mis du temps. Donc, des morts, on ne sait pas exactement combien. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de malades, on ne sait pas exactement combien. Vous voyez, ça, cela ajoute aussi à l'angoisse de vivre dans une atmosphère dans laquelle on ne sait pas où on en est, où on va, si on va vivre aujourd'hui, si on va mourir demain.
C'est un sujet sur lequel vous avez travaillé de longues années. En tout cas, ça fait longtemps que vous écrivez. Il y a eu plusieurs versions de ce roman. Nous sommes 18 ans après les faits. Ça veut dire que l'enquête a été compliquée, qu'il y a eu une chape de plomb, peut-être un silence qui vous empêchait de raconter.
Mais disons que l'édition a été très, très, très compliquée. Hein, très compliquée parce que, vous savez, il y a des choses dont on ne peut pas... C'est pas qu'on ne peut pas en parler, on peut en parler, mais comment publier ce genre de catastrophe qui nous tombe là-dessus? Comment écrire cette histoire-là? Est-ce qu'il faut en parler sous forme d'essai? Mais je sais bien que sous forme d'essai, ça a déjà été fait, hein, par d'autres, précisément en France, entre autres. Mais c'est pas cela, justement, qui m'intéressait. Parce que, comme vous le voyez, dans cette dernière version qui a été publiée, il y a aussi tous les problèmes de société dont je voulais parler.
En effet, ce sera le sujet de notre conversation dans un instant, parce que pour mieux nous faire comprendre l'ampleur du ravage sur la santé publique des Ivoiriens, votre roman commence après.
Oui.
3 semaines après la catastrophe et s'ouvre sur un fait divers qui va secouer toute une communauté, l'assassinat par balle d'un homme appelé Fabien. C'est un gardien du quartier, un quinquagénaire, marié, père de 2 enfants. Il est abattu froidement un matin dans la rue par un homme au visage masqué par une cagoule. Alors c'est un meurtre inattendu, brutal, que ses proches vont essayer d'élucider, en tout cas de comprendre. Mais est-ce que d'une certaine façon, Tanella Bonny, vous faites ici de la mort de cet homme la métaphore du deuil de tout un pays ?
C'est un peu ça, parce que vous savez, pendant des années, à Abidjan et un peu partout en Côte d'Ivoire, c'était très difficile de savoir si, bon, quand on sort de chez soi, est-ce qu'on va rentrer le soir même ou bien est-ce qu'on ne rentre pas? On ne sait pas. Je veux parler ici des problèmes d'insécurité qu'il y a eu pendant longtemps en Côte d'Ivoire. C'est un peu ça. Comment vivre dans un pays, dans une ville, en sachant très bien qu'on risque sa peau quelque part? Et encore une fois, sans savoir pourquoi. C'est ça, en fait, le problème. C'est de cela que je veux parler. On aimerait quand même pouvoir vivre chez soi, être donc à l'aise, être heureux, entre guillemets, même qu'on soit pauvre ou qu'on soit riche ou, j'allais dire, vivre normalement. Mais en tout cas, il y a eu un moment en Côte d'Ivoire. Quand je dis un moment, vous savez, à un moment donné, le pays était divisé en deux. Il y avait une crise qui perdurait. C'est tout cela aussi. Vous savez, cette histoire de Probokwala est arrivée et s'est installée sur autre chose, peut-être d'aussi grave. L'angoisse, tous les jours, de devoir vivre dans un pays qui se cherche. C'est aussi cela que j'ai voulu dire dans ce roman.
Effectivement, on est frappé dès la lecture des premières pages d'une phrase qui revient à plusieurs reprises sous votre plume, Tanella Bonny. L'espérance de vie est faible, elle est même en chute libre. Les adultes de plus de 50 ans sont pris pour des vieux, on meurt jeune, de courtes maladies, par balles, n'importe comment. Oui. Cela est récent néanmoins, ou pas?
Oui, je dirais qu'on le traîne un peu tout ça. On espère bien que ça prendra fin un jour et qu'on pourra dire, ah ben voilà, en Côte d'Ivoire, on vit peut-être jusqu'à 100 ans et on vit quand même heureux, on vit à l'aise, etc. Mais à un moment donné, je pense qu'on ne pouvait pas le dire. On ne pouvait pas le dire, même si on le sait bien. En Côte d'Ivoire, il y a des choses qu'on ne dit jamais. C'est même pour ça qu'on essaie de tout tourner en dérision. Vous parlez aujourd'hui en Côte d'Ivoire avec des Ivoiriens, même du Probokwala, on n'en parle plus. Hein. On n'en parle plus, même si on sait bien que tout le monde en a souffert et qu'il y a eu des morts et plein de malades. On n'en parle pas parce que, justement, on ne veut pas en rajouter. Aujourd'hui, on a besoin de paix. On a besoin de sérénité. C'est vrai. Mais est-ce que c'est parce qu'on a besoin de paix et de sérénité qu'on ne doit jamais parler de ce qui s'est passé? Simplement, moi, je dis que ça fait partie de notre histoire. Il ne faut pas oublier justement notre histoire. C'est une histoire récente. Parce que si on n'en parle jamais, est-ce qu'on peut l'oublier? Est-ce qu'on peut vivre en paix? Parce que c'est la paix qu'on recherche partout. Partout, vous savez, le mot paix, c'est vraiment un mot clé en Côte d'Ivoire. Mais comment on peut être en paix dans une société avec soi-même, avec les autres, si on ne parle jamais de ce qui pose ou ce qui a posé problème, qu'on ne peut pas oublier? On ne l'oublie pas, mais on n'en parle pas. Est-ce que, en tant qu'écrivaine, je n'ai pas le droit? Je me dis que j'ai quand même le droit d'en parler, parce qu'il faut en parler pour justement surmonter ce qui fait que, justement, la paix est difficile à, disons, à régner. Non seulement politiquement, il faut que ça règne, mais aussi dans la société, mais aussi dans les familles, dans les couples, la paix à tous les niveaux. C'est ça qu'on cherche dans ce pays.
Et cette souffrance, on l'entend aussi dans une phrase prononcée par l'un de vos personnages, Tanella Boni. Pourquoi sommes-nous les souffre-douleurs du monde entier? C'est ce que vous ressentez également, que la Côte d'Ivoire est le pays des souffre-douleurs du monde entier?
Vous savez, hein, c'est pas seulement la Côte d'Ivoire.
Oui.
C'est pas seulement la Côte d'Ivoire. Je vais dire que quand on parle d'environnement, vous savez, en Europe et dans les pays occidentaux, on dit on protège l'environnement, voilà ce qu'on doit faire, etc. Mais on se rend compte que, d'abord, prenons des exemples précis. J'en parle très souvent. Je parle de la forêt. On sait comment la forêt en Côte d'Ivoire est dévasté. Voilà un autre problème très précis. Mais depuis très longtemps, qui dévaste la forêt en Côte d'Ivoire? Vous voyez, ce sont des questions toutes simples, mais très, très, très compliquées. Autre exemple, la pollution par le plastique. Voilà un autre drame, un autre drame. Il y a des lois, on ne les respecte pas, mais pourquoi on ne respecte pas? Parce qu'évidemment, il y a des gens qui continuent de produire du plastique un peu partout dans le pays. Et quand on continue de produire du plastique, est-ce qu'on va reprocher donc à la population de ne pas utiliser le plastique qui est à portée de main? Voyez, deux exemples très précis et nous en souffrons tous et toutes dans ce pays.
Alors nous allons continuer de parler de votre roman Sans parole ni poignée de main avec vous, Tanella Boni, dans un instant. D'abord, nous allons faire une pause musicale. Alors il n'y a pas beaucoup de références à part Otis Redding, peut-être, The Dock of the Bay, parce que c'est en écho avec un personnage qui est prénommé Otis.
Oui.
Qu'est-ce que vous aimeriez entendre? Une autre chanson?
Bon, moi j'allais dire Rokia Traoré, parce que je l'aime énormément.
Eh bien voilà, c'est dit. Un titre en particulier?
Eh bien, il y a un titre, justement, c'est le monde, hein, c'est Dounia.
Formidable. Sur les conseils de Tanella Boni, alors, on écoute cette chanson.
Jiribana, tele fi, jiribana, kalu.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie aujourd'hui de Tanella Boni pour parler de son roman intitulé « Sans parole ni poignée de main » aux éditions Nimba qui se déroule en 2006 à Abidjan, quelques temps après le déversement de déchets toxiques au large de la capitale économique ivoirienne. Une catastrophe racontée ici par le biais des conséquences sur la population. Asphyxie, mort brutale, lésions de la peau, malformation des bébés. Des faits qui sont incarnés ici par vos personnages, Tanella Boni, qui par ailleurs sont en deuil de l'un des leurs, Fabien, assassiné en pleine rue, apparemment pour aucune raison. Mais peut-être qu'en effet, il y a un lien mystérieux, parce que c'est aussi un roman qu'on lit comme un roman policier.
Oui.
Et il y a peut-être un lien entre ce Fabien et la catastrophe. En tout cas, ce meurtre de Fabien vous permet, via une sorte d'enquête que mènent les uns et les autres pour comprendre, de donner la parole à un certain nombre de femmes. L'épouse, pour commencer, Adjoa, qui par ailleurs est couturière, mais aussi Ferima, la fille aînée, étudiante, ainsi que Fatma, une jeune vendeuse de cacahuètes qui a été témoin de l'assassinat de Fabien. Alors, ce sont trois femmes différentes, en âge, en éducation, mais qui ont pour point commun d'être courageuses et lucides sur le monde qui les entoure. Que représentent ces femmes pour vous, Tanella Boni ?
Mais ce sont les femmes du pays, hein. Ce sont des femmes de Côte d'Ivoire. Hein. Fatma, c'est la fille qu'on voit dans les rues, hein, qui vend des fruits, des cacahuètes pour se nourrir. Parce qu'elle n'a pas pu aller à l'école, donc il faut bien qu'elle se débrouille. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes comme ça, beaucoup de jeunes filles. Il y a aussi la femme Adjoa, elle fait de la couture, comme évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes en Côte d'Ivoire.
Mais elle tient un atelier, c'est la patronne.
Voilà, c'est la patronne, elle est entrepreneure. Et ça, c'est vraiment très, très bien. Pas seulement le courage, mais c'est une femme, je dirais, de poigne. Et sans l'air de rien, il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire et pas seulement, partout en Afrique. Et puis, il y a aussi Ferima, qui est la fille étudiante, qui hésite encore, qui se cherche et qui est vraiment très étonnée par l'histoire familiale et l'histoire de son père. Et en fait, c'est elle aussi qui va garder la mémoire familiale. Parce que c'est elle qui découvre le fameux cahier où le père notait tout ce qui lui passait par la tête, tout ce qu'il voyait sur son lieu de travail, etc. Et donc, la fille est l'héritière de toute une histoire. Pas seulement d'un quartier, mais je dirais de l'histoire de la ville et même peut-être de l'histoire du pays. Et aussi des enjeux politiques du moment.
On va en parler dans une seconde de ce cahier. Je voudrais rester sur cette mère et sur cette fille parce qu'elles se battent l'une et l'autre contre un certain nombre de préjugés tels que les études, c'est pas bon pour les femmes. Il faut fermer les yeux sur les infidélités des hommes. On ferme aussi les yeux sur la prostitution des adolescentes, voire de la pédophilie. Il faut porter le deuil de son époux pendant un an. Mais l'une et l'autre résistent de toutes leurs forces. Ce sont vos combats, vous aussi, Tanella Boni?
Ben, il faut résister à tout. Hein. Il faut résister à ce qu'on dit, justement, les on-dit. Les on-dit, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Et vous savez, non seulement il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire, mais il y a beaucoup de choses aussi qu'on ne peut pas faire. Et je me pose la question de savoir toujours hein, pourquoi. Il faut savoir pourquoi. Et chez moi, ça relève peut-être d'une déformation professionnelle. Je ne sais pas, parce que je me pose toujours des questions. Qu'est-ce que et pourquoi? Ce sont des questions philosophiques. Mais en même temps, les questions philosophiques, il ne faut pas en faire des choses très, très compliquées. Hein. Voilà pourquoi j'ai envie toujours de raconter des histoires autour justement du qu'est-ce que et du pourquoi. Et je pense que dans tous mes récits, dans tous mes romans, je procède peut-être de la même manière.
Mais j'imagine qu'ici, ça vous tient à cœur aussi de défendre le droit à l'accès à l'éducation pour les jeunes filles.
Exactement, c'est ça. Parce que c'est un problème de fond. C'est un problème de fond. L'accès donc à l'éducation des jeunes filles et des garçons aussi par la même occasion. Parce que si il y avait uniquement des filles qui avaient accès à l'éducation, je pense que quelque chose manquerait. Il faudrait que les garçons aussi soient éduqués pour que les choses puissent changer. Mais on sait bien que ce n'est pas toujours le cas. Voilà pourquoi les uns et les autres doivent pouvoir avoir accès à l'éducation pour que ça puisse avancer.
Donc d'une certaine façon, parler, écrire, c'est transgressif. C'est ce que vous faites, vous, Tanella Boni, dans une société qui précisément préfère rester silencieuse. Alors d'où vient votre rébellion? Qu'est-ce qui fait que vous, Ivoirienne, vous ne vous conformez pas à cette tradition, soit de rire, soit de se taire?
Mais c'est parce que moi-même, je suis née dans le silence, hein, je l'ai toujours dit. Quand on est habitué au silence, évidemment, on se tait, mais qu'est-ce qui bouillonne à l'intérieur? Ce qui bouillonne à l'intérieur, en fait, c'est ça qui ressort quand j'écris, quand je prends la plume. Parce que je l'ai toujours dit, hein, moi, petite et même adolescente, je ne disais pas, peut-être pas plus de 2 ou 3 mots en une journée. Mais justement, je regardais, mais quand je regardais les choses, je voyais bien ce qui se passait. Et j'avais bien envie de m'exprimer. Et donc, cette expression-là, elle passe justement par la plume.
Qu'est-ce qui a été le déclic?
Ah, ça c'est une longue histoire. c'est une longue histoire et je n'ai pas envie de faire de la psychanalyse ici. Et bon, un beau jour, je me suis dit, peut-être que ça suffit comme ça. Et que à partir de ce jour-là, moi je tiens la plume. Et je pense que je vais l'emporter avec moi dans ma tombe. Et je vais dire, quelles que soient les circonstances.
Est-ce qu'il y a une colère aussi en vous, Tanella Boni, contre par exemple l'impunité, ici, des responsables du malheur des autres?
La colère, elle est toujours en moi. Toujours, toujours, toujours. Et depuis toujours. Et peut-être que je dirais que c'est par impuissance que j'écris et que je continue d'écrire. Parce qu'il y a beaucoup de choses autour de moi, autour de nous. On regarde, on se demande, mais on a fait de la philosophie, pourquoi? C'est ça aussi la question. Normalement, les choses ne devraient pas se passer comme ça, à tous les niveaux. Mais pourquoi ça se passe comme ça? C'est pour cela que je suis si en colère. Et c'est pour cette raison-là que je prends la plume.
Est-ce que la littérature permet d'alerter
Il faudrait d'abord qu'on puisse être lu. C'est aussi ça le problème. Je vais dire, il faut accepter peut-être de crier dans le désert. Parce que écrire dans nos pays, c'est un peu cela. Mais c'est pas sûr qu'on soit entendu.
On l'a dit tout à l'heure, Sans parole ni poignée de main a été publié aux éditions Nimba, qui est une maison d'édition ivoirienne. D'ailleurs, il y a marqué « Conçu, édité en Côte d'Ivoire ». C'est une marque forte. Ce livre est disponible aussi sur le continent européen et en France. Il est distribué sur les plateformes ou dans les librairies. Vous êtes, vous, par ailleurs, en tant que poétesse, éditée chez l'éditeur Bruno Doucet, qui est à Paris. Est-ce qu'il y a un projet de coédition pour Sans parole ni poignée de main ?
Enfin, mais j'espère bien, mais j'attends.
Moi, attendez.
Non, mais j'aimerais bien qu'il y ait un autre projet pour que ce livre-là puisse continuer son chemin. J'espère bien que, je vais faire des rencontres heureuses autour de ce livre. Et puis aussi autour des autres, parce que comme vous l'avez dit, j'ai de la poésie, je dirais même beaucoup, beaucoup, beaucoup de poésie, parce que j'en écris tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que dans ma poésie aussi, c'est la même thématique, comment aujourd'hui nous pouvons vivre en tant qu'humains sur une terre et dans des pays où les uns et les autres puissent justement se reconnaître en tant qu'être humain.
Et à signaler aussi la publication de ce nouvel opus que vous nous avez apporté, Tanella Boni, intitulé « Elle, virgule, parmi ses souvenirs », qui a paru aux éditions...
La case des Lucioles.
La case des Lucioles.
Ce sont des fragments, je dirais, c'est un récit, récit fragmentaire à partir d'une photo. Parce que si vous ouvrez le livre, vous voyez bien qu'il y a une photo d'enfance et le texte part de là, de cette photo. C'était qui cette fillette ? Et je précise bien que la photo, c'est moi. C'est bien moi.
Une petite fille en robe blanche, avec des sandales blanches, sur une chaise blanche.
Oui, c'est une chaise d'adulte. Une chaise d'adulte. Et donc, cette fillette, elle regarde le monde. Elle ne dit rien, mais elle regarde. Donc, plus tard, tout cela va ressortir. Donc, voilà. C'est un récit fragmentaire. Et je précise que c'était une photo perdue, mais retrouvée. C'est cela, c'est de cela que je parle dans cette dernière publication.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Tanella Boni. Je rappelle donc que nous avons parlé essentiellement au cours de cette conversation de ce roman « Sans parole ni poignée de main » publié aux éditions Nimba et que nous avons évoqué ce nouveau livre « Elle, parmi ses souvenirs » aux éditions La Case des Lucioles. Merci à vous.
Merci.
Littérature sans frontières, Catherine Frujon-Toussaint, Apolline Verlon.